mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littera 05. Anne-Marie sélectionne pour vous les bouquins des livres nomades et vous donne l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Eh bien, nous voilà en 2020 avec la reprise de l'émission sur les livres, donc Les coups au cœur, présenté par Littera 05. Oh, ben, je fais quand même une petite parenthèse pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, même s'ils sont un petit peu tardifs. Alors aujourd'hui, nous allons partir dans un pays du Grand Nord, je dirais, là où il fait très froid, où il y a beaucoup de neige. En Islande, avec l'auteur Jón Kalman Stefánsson et son livre Asta, c'est son dernier livre donc, qui a été traduit par Eric Bourri et il a été publié chez Grasset en 2018. Alors, Jón Kalman Stefánsson donc, est né en Islande, à Reykjavik, en 1963. Il s'est imposé avec une trilogie comme un des grands écrivains islandais, sa trilogie Entre ciel et terre, La tristesse des anges, Le cœur de l'homme. Trois très beaux livres qui nous donnent une atmosphère bien particulière, celle de l'Islande, celle de la mer, les pêcheurs, la neige, etc. Un autre livre aussi a eu beaucoup de succès, en France particulièrement, puisque le magazine Lire l'a même élu meilleur livre étranger en 2015. Ce livre, c'est d'ailleurs « Les poissons n'ont pas de pieds ». Voilà, autant de livres que je vous conseillerais de lire si vous en avez envie, bien entendu. Je fais une petite parenthèse sur, je vous ai parlé du traducteur Eric Bourri. C'est un des grands noms de la traduction islandais-français. Celui qu'on appelle le passeur d'Islande, qui traduit les grands noms de la littérature islandaise. C'est à travers ces traductions que les lecteurs français connaissent justement Indridason, Stefánsson, Arni Thoranninsson, autant d'auteurs de plus en plus connus islandais. On oublie souvent les traducteurs, on devrait au moins citer leurs noms, parce qu'ils ont bien sûr un rôle essentiel et qui n'est pas facile. Ils passent d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, et il faut qu'ils soient fidèles à l'une comme à l'autre, bien sûr. On doit presque considérer le traducteur comme un auteur. Eric Bourri dit du traducteur « Il doit être aussi fin qu'une feuille de papier à cigarette, donc à la fois présent mais en même temps absent. Il est l'interprète, dit-il, d'une musique composée par un autre. » C'est très beau ça, il est l'interprète d'une musique composée par un autre, comme un musicien bien sûr. Alors, Asta, donc son dernier livre, un livre qui a, je ne sais plus combien de pages, 500 pages, quelque chose comme ça. Un livre, je dirais, qui vous prend au ventre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Alors, je vous lis bien sûr le début. Les pages qui suivent renferment le récit de la vie d'Asta, qui a jadis été jeune, mais qui est nettement plus âgée, au moment où ces lignes sont écrites, ou disons plutôt hâtivement griffonnées. Puisqu'ici tout advient à grande vitesse, y compris quand l'histoire avance si lentement que le temps semble presque immobile. D'ici peu, je vous expliquerai pourquoi ses parents l'ont appelée Asta. Pourquoi ils ont choisi ce prénom plutôt que Sigridur, Maria, Odur, Svava, Johanna, Frida. Car nous naissons tous anonymes et immédiatement, ou très peu de temps après, on nous attribue un nom qui rend à la mort sa besogne plus complexe. Donnez-moi un nom et la faucheuse me trouvera moins facilement. Mais comment raconter l'histoire d'une personne sans présenter l'univers qui la voit naître, sans évoquer cette atmosphère, cet air du temps qui retient le ciel? Et surtout, en a-t-on le droit? Voilà, ça c'était comme un prélude. On passe tout de suite à la première partie. Commençons par le commencement. Nous sommes dans Vesturbær, le quartier ouest de Reykjavik, au début des années 50 du siècle dernier. Je vous expose l'origine du prénom d'Asta. Puis, je ne maîtrise plus rien. Helga et Sigvaldi, les parents d'Asta, ont choisi son prénom avant sa naissance. Persuadés qu'ils auraient une fille, ils l'ont trouvée dans le livre « Jean indépendant », un livre de Haldor Laxness paru en 1934. Ils ont lu ce roman pendant qu'Asta grandissait et se développait dans le ventre de sa mère, et la faim les a fait pleurer. Même Sigvaldi a versé des larmes, lui qui ne l'avait pas fait depuis l'enfance et qui s'en croyait désormais incapable. Tous deux ont pleuré quand Bjartur, le père d'Asta, la prend dans ses bras, épuisée et presque morte, pour continuer à monter avec elle sur la lande impitoyable. « Cramponne-toi à mon cou, ma petite fleur, » dit Bjartur. « Oui, » murmure-t-elle, « toujours, jusqu'à mon dernier souffle, je suis ta fleur unique, la fleur de ta vie, et je ne vais pas mourir tout de suite. » Bien sûr qu'ils ont pleuré. Ces lignes, la fin de ce livre, auraient le pouvoir de faire pleurer les pierres. On serait toutefois tenté de se demander si ce n'est pas par insolence qu'ils lui ont donné le prénom d'un personnage de roman, certes très séduisant, mais qui a vécu et péri dans l'ombre de son père, où peu de choses prospéraient, en dehors de l'obstination, du malheur et de la cruauté qu'engendre parfois l'incapacité qu'ont certains êtres de se mettre à la place d'autrui. Je te baptise Asta, parce qu'une autre Asta a péri sur une lande glaciale en crachant du sang, sacrifiée sur l'autel de son père. La proposition venait de Sigvaldi. Helga a d'abord hésité, puis s'est rendu compte qu'en retirant la dernière lettre du prénom, il reste le mot « ast » qui signifie « amour » en islandais. Et elle a accepté. Leur choix n'était pas uniquement un hommage à la fascination qu'exerçait ce merveilleux livre et aux émotions puissantes qu'ils avaient ressenties en le lisant, mais également, et sans doute tout autant, en tout cas dans l'esprit de Helga, il était censé leur rappeler et signaler au monde à quel point l'amour est toujours à portée de main. La vie d'Asta était née de l'amour et elle grandirait entourée d'amour. Helga n'a pas encore 19 ans au moment où Asta est conçue. Sigvaldi est son aîné d'une bonne dizaine d'années. Helga, donc la mère d'Asta, Sigvaldi le père d'Asta. La différence d'âge n'est pas si importante, elle s'atténuera au fil des ans. Au bout d'un certain temps, peu importe qu'on ait 2, 10, 15, voire 20 ans de différence avec son conjoint. Cela dit, une jeune femme d'à peine 19 ans n'est pas au même stade de l'existence qu'un homme qui en a 30. Déjà parents d'une petite fille de 7 mois, ils occupent un logement en sous-sol tout à fait confortable dans le quartier ouest de Reykjavik. Ils espèrent avoir les moyens de s'offrir un appartement au rez-de-chaussée d'ici 2 à 4 ans. Depuis quelques années, Sigvaldi travaille comme peintre en bâtiment. C'est là une grande chance. Il voudrait exercer cette profession à temps plein, mais il devra sans doute attendre le printemps avant de pouvoir acheter les pinceaux, les outils et les seaux nécessaires. L'Islande est un pays encore archaïque, à strictement parler. Elle est entrée dans le XXe siècle il y a tout juste 10 ans. La société n'a pas encore les moyens de faire vivre une kyrielle de peintres en bâtiment à longueur d'année. Mais d'ici peu, Sigvaldi pourra se consacrer exclusivement à cette activité. Jusque-là, il a dû également travailler en mer, gagner sa vie dans le froid et l'humidité, une tâche éreintante. Courageux et robuste, c'est un ouvrier convoité. Mais aucun bateau ne sort en ces premières semaines de janvier où le hasard nous a jetés. Les marins sont en grève. Une grève acharnée qui dure depuis 10 jours, au moment où Helga s'allonge sur la table de la cuisine qu'elle vient de débarrasser des restes du dîner, en gloussant comme une gamine, sa jupe remontée, sa culotte par terre, elle sent Sigvaldi bouger en elle, tellement excitée qu'il ne prend pas le temps d'ôter son pantalon. Il s'est contenté de le baisser à mi-cuisse et il descend dès qu'il se met à bouger. Quand il s'avance un peu pour caler ses coudes sur la table, leurs lèvres se séparent Il respire fort, il accélère, son pantalon descend et Helga a cessé de glousser. Elle soupire, elle halète, elle ouvre plus grand ses cuisses pour mieux le sentir. Elle murmure « mon amour », regarde son mari, ses dents blanches, puis se cabre sur la table et lui chuchote à l'oreille d'une voix rauque « prends-moi, sois grossier ». Elle sait que ça l'excite, elle sait que ça le rend fou, sois grossier. Et la table de la cuisine tremble quand il commence à s'enflammer, évacuant la torpeur des jours passés. Helga, la femme qu'il aime, celle qui est si belle, si belle, si belle. Et 30 ans plus tard, Sigvaldi tend un peu trop loin les bras avec son pinceau sur son échelle, il perd l'équilibre et en quelques secondes, son corps s'abat sur le trottoir. Voilà, donc on est à Reykjavik. La première scène, donc une scène d'amour entre Sigvaldi et Helga. Ils ont déjà une petite fille et donc bientôt va naître une seconde fille qu'ils vont nommer Asta. Et 30 ans plus tard, donc, Sigvaldi tombe d'un échafaudage et va rester allongé sur le sol dans une sorte de demi-coma. À demi-inconscient, il va revivre toute son existence depuis qu'il était enfant, donc une 50aine d'années plus tôt, et surtout depuis la mort de son père, alors qu'il était avec son jeune frère dont il a promis de s'occuper. Ses souvenirs refont surface, mais sans aucun ordre chronologique, complètement mélangé. À l'époque où il tombe de l'échelle, d'ailleurs, Sigvaldi n'est plus avec Helda. Il est marié à Sigrid, sa seconde épouse, donc, une Norvégienne, et il s'occupe de Seselja, la fille d'Asta. Alors, il y a donc des passages qui racontent le passé de Sigvaldi, sa vie, et puis, il y a une coupure pour qu'on puisse suivre en même temps la vie d'Asta, sa jeunesse qui a été traversée d'événements dramatiques. La mort de sa grande sœur, on en a déjà parlé là, une jeune fille pleine de douceur et de joie de vivre, mais emportée par la maladie. Alors il y a quelques belles pages sur les relations entre Asta et sa jeune sœur. Pourquoi ne pas mourir quand vous avez échoué dans tous les domaines et quand tous ceux, ou du moins la plupart de ceux qui comptaient pour vous ont péri? D'abord sa nourrice, ensuite celui dont elle préfère ne jamais prononcer le nom, et maintenant sa sœur, son aînée d'un an, cet être humain deux fois meilleur qu'elle. Ceux qui sont aimés des dieux meurent prématurément. Nous, les autres, les médiocres, nous nous suicidons. Les lettres les plus chaleureuses qu'Asta a reçues à Vienne venaient de sa sœur. 9 lettres emplies de douceur, de force, de confiance et d'intérêt pour la vie d'Asta. Sa sœur restait en revanche si discrète sur sa maladie qu'Asta s'était mise à croire qu'elle finirait par en triompher complètement et qu'elle était en voie de guérison. Du reste, elle était bien trop jeune pour mourir et se changer en passé. Mais peut-être Asta s'était-elle forgée cette conviction pour éviter de regarder en face, pour éviter d'affronter. Les 9 lettres de sa sœur, sauf une, ont été écrites à l'hôpital, pour la plupart au lit. Mon point de vue, mon navire, mes ailes, ma prison. Asta n'en a envoyé que 3 en retour. Nous avons tant à faire que parfois, on dirait que notre existence va plus vite que la vie elle-même. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, petite sœur », a-t-elle écrit dans cette dernière lettre. « Je te sais extrêmement occupée. » Tu m'écriras quand tu trouveras le temps et tu réjouiras ta grande sœur par ta vivacité d'esprit, ton éducation et ta connaissance du monde quand tu trouveras le temps. Asta n'avait pas besoin de le chercher. D'ailleurs, n'avons-nous pas toujours le temps pour ceux qui nous sont chers, pour peu que nous soyons des personnes acceptables? Non, ce n'était pas le manque de temps. Si seulement tu avais la moitié de la gentillesse de ta sœur. Mais tu es aussi invivable que ta gorgone de mère, lui avait dit un jour Sigvaldi, leur père. Ou plutôt, il l'avait vociféré, il avait crié, au moment où il avait jeté Asta dans la cage d'escalier de l'immeuble de la rue Sartalio. 2 ans après qu'elle avait emménagé chez lui. Sigvaldi, cet homme flegmatique, avait balancé sa fille dans l'escalier, suffoquant de colère. Asta avait presque perdu la voix à force de hurler sur lui et sur sa belle-mère norvégienne, tous les jurons et les insultes qu'elle avait en rayon. Et malheureusement, ce rayon était bien achalandé. Si seulement tu en possédais la moitié, Asta l'avait tout de suite compris quand elle l'avait rencontré, alors âgée de 14 ans, alors que sa sœur en avait 16. La douceur, la joie de vivre et l'humour bon enfant de cette jeune fille rendaient Asta à la fois plus heureuse et plus mélancolique. Mélancolique car elle voyait bien à quel point elle lui était inférieure. Et il arrivait encore que ce sentiment vienne l'envahir quand elle prenait le temps de lui écrire. Elle était envieuse. Elle se détestait. Elle se méprisait de nourrir un tel sentiment. Voilà pourquoi elle n'avait écrit que 3 réponses à sa sœur. Voilà pourquoi elle n'avait pas immédiatement répondu à la 9e lettre, malgré les nombreux signes annonciateurs d'une mort imminente. Des signes qui lui avaient sauté aux yeux quand elle l'avait relu. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Trop tard. Certains mots portent en eux un séjour en enfer. Une semaine entière avait passé avant qu'elle puisse commencer à rédiger sa réponse. Elle n'arrivait pas à s'y mettre, c'était une souffrance. Il faut le reconnaître, cela l'obsédait. Elle sentait comme un nœud dans son estomac. Le destin se chargea toutefois de trancher ce nœud sans l'ombre d'une hésitation. Il le défit vite et bien. Sa sœur mourut. Or, chacun sait qu'il est inutile d'écrire aux morts, ça ne sert à rien. Le facteur refuse de prendre la lettre, il prétend ne pas connaître l'adresse ou dit que les rues sont trop encombrées par la neige. 2 semaines après réception de cette 9e lettre, Asta reçut à Vienne un télégramme de Sigrid, sa belle-mère, l'informant que sa sœur était décédée 4 jours plus tôt. Elle ne parlait pas de l'enterrement, ne mentionnait pas la date, ni ne lui demandait si elle viendrait pour les ultimes adieux. Comment s'y prend-on pour dire adieu à un mort? Comment s'y prend-on pour faire ses adieux à quelqu'un qui déjà est parti? Voilà un événement qui a traversé la vie d'Asta avec beaucoup de souffrance, la mort de sa sœur. On va faire une pause musicale parce que disons que l'émission est un petit peu longue. Dans le livre, on écoute continuellement de la musique et les références sont à des chanteurs comme Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Nina Simone, Billie Holiday. Et donc on va écouter un extrait de Nina Simone. Thank you.
My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Donc j'étais en train de vous parler des événements dramatiques qui ont traversé la jeunesse et toute la vie d'Asta, donc la mort de sa grande sœur. Un autre événement, son internement en psychiatrie, parce qu'elle avait fait, elle a fait une tentative de suicide ratée. La folie de sa mère, la Helga du début. Cette mère qu'on a l'habitude de retrouver ivre morte sur la voie publique. Son père qui n'a pas voulu la garder quand il s'est remarié et qui l'a confiée à une nourrice, même si elle l'a beaucoup aimée, cette nourrice. Et puis un autre événement qui a eu des conséquences sur sa vie, c'est sa première expérience sexuelle ratée avec un certain Joy qu'elle a giflé, et ce qui lui a valu d'être envoyée au fin fond d'un fjord complètement isolé, chez un couple de paysans qui avait une ferme et qui recueillait des enfants à problème. Un séjour qui a été dur, parce que, je vous disais, donc un fjord complètement isolé, mais surtout, ce séjour l'a éloigné de sa nourrice, une femme qu'elle aimait beaucoup. Dans cette ferme, elle va rencontrer un garçon de son âge, Joseph, qui va devenir le grand amour de sa vie. Et donc, dans le livre, on a des lettres envoyées par Asta à Joseph. L'amour, l'amour qui est le grand sujet du livre. Toute forme d'amour, l'amour filial, l'amour maternel, paternel, fraternel, et puis bien sûr la passion amoureuse. Il y a des pages extraordinaires sur l'amour. Je vais vous lire un passage où il est question d'amour filial. Asta a donc été envoyée au fin fond de ce fjord, chez un couple de paysans. Arnie, un homme bourru, mais très gentil, et Christine, sa mère. Sa mère qui, je dirais, est à la fin de sa vie et qui a de grandes absences de mémoire. Certains jours, elle se réveille à une autre époque. C'est là qu'elle a rencontré donc Joseph. Un jour, Christine, la vieille dame, a disparu. Tout le monde est parti à sa recherche. Arnie, son fils, Asta et Joseph, et aussi le chien Pluton. Christine a disparu et il est difficile, voire presque impossible, de savoir dans quelle direction elle est partie, si elle est allongée, épuisée, quelque part entre les touffes d'herbe, ou si elle s'est mise en tête de nager comme elle le faisait souvent dans son jeune temps, ce qui faisait jaser et consterner un certain nombre de gens de la région. Nager dans la mer glaciale, franchement, quelle idée! Elle ne se prend tout de même pas pour un poisson, et il se met à pleuvoir. Ce ne sont d'abord que quelques gouttes qui bientôt se transforment en un rideau de pluie. Il retrouve Christine une heure plus tard, vers l'intérieur de la vallée, assez haut dans la montagne, perdue dans les éboulis. C'est incroyable qu'elle soit allée si loin et montée si haut. Elle est assise, recroquevillée sur elle-même, immobile, cernée par les gros blocs de pierre, épuisée. Son esprit se serait-il soudain rappelé combien son corps est âgé? La vieillesse l'aurait-elle rattrapée et mise à genoux parmi ses éboulis? Ils ont beau l'appeler, elle ne répond pas. Elle ne bouge pas et sa jolie robe à fleurs qu'elle ne porte qu'à Noël est trempée, trouée en lambeaux. Arnie gravit si vite la pente qu'il est inutile d'essayer de le suivre. Les deux adolescents sont loin derrière lui. Il s'incline vers sa mère, se redresse, et leur crie d'une voix étonnamment ardente « Elle est en vie, tout va bien !» Il la soulève quand Asta et Joseph le rejoignent. La vieille femme passe ses bras autour du cou de son fils, puis la tête posée contre sa poitrine se met à sangloter en silence. Arnie la serre plus fort, il se racle la gorge et les regarde. « Partez devant moi, courez, dit-il, préparez du chocolat chaud et de la bouillie, et remplissez le grand baquet d'eau chaude. La couleur du ciel transforme tout. La pluie nous apaise et nous apporte une douce mélancolie. Surtout quand elle tombe comme maintenant à la verticale, quand l'air est parfaitement immobile. Pluie par temps calme est plus harmonie que pluie véritable. » Asta et Joseph sont assis dans la cuisine. Ils jouent à la crapette en parlant à mi-voix. Quand Arnie est arrivé avec sa mère, chacun se tenait d'un côté du baquet. Il s'est arrêté à la porte, a balayé la cuisine d'un regard et immédiatement compris. « L'eau est chaude, » a précisé Asta. « Je sais, » a répondu Arnie. Et la pluie tombait drue sur la maison. Il a déshabillé sa mère qui tremblait comme une feuille et l'a plongée dans l'eau. Elle a gémi en se plaignant que le bain était trop chaud, mais n'a pas tardé à soupirer de plaisir comme une vieille brebis qui rentre à la bergerie, à l'abri du mauvais temps, et qui trouve du foin frais dans sa stalle et assez d'eau dans son auge. « Maman, » a dit Arnie. « Oui, » a répondu Christine. Il lui a fait manger le gruau d'avoine tout doucement. Elle sanglotait en bredouillant des choses incompréhensibles. Aurait-elle prononcé le nom de sa sœur ? Chut, chut, tout ira bien, rassurait Arnie en essayant de lui faire boire du chocolat chaud. Mais elle n'en a pas avalé beaucoup. Une partie est tombée dans l'eau du bain qui s'est troublée, ce qui n'était pas plus mal puisqu'elle y avait déféqué. Arnie l'a prise dans ses bras dès qu'il s'en est rendu compte. Il l'a essuyée en lui disant « Tu n'as que la peau sur les os. » Il l'a enveloppée dans une serviette, a regardé d'un air hésitant Joseph qui a immédiatement compris, étant parfois âgé de 2000 ans. Puis Arnie est monté, il a refermé la trappe et les deux adolescents se sont mis à nettoyer. Voilà, on va suivre comme ça la vie d'Asta. Donc je vous disais, elle se raconte dans des lettres qu'elle envoie à son amant alors qu'elle est une vieille dame et que celui-ci vient de la quitter. 30 années de vie commune, ils ont eu 30 années de vie commune. On suit également sa vie à travers les pensées de Sigvaldi qui gît toujours sur la chaussée, soutenu par une passante à qui il s'adresse et à qui il raconte sa vie. Donc le livre est complètement déstructuré, il n'y a aucune chronologie, je dirais, à la manière un petit peu d'un puzzle dont il faut comprendre tous les pions. Et pour cela, il faut rester très attentif. On passe d'un personnage à un autre, on a des fois du mal à se rappeler qui il est. On passe aussi d'une période à une autre, du passé pour un retour vers le présent. Voilà, une belle fresque familiale, je dirais une saga, dans laquelle il faut accepter de se perdre, d'utiliser les repères qu'on a quand on lit un roman chronologique. Mais il y a une sorte de magie qui opère grâce à une écriture bien particulière, très belle, lyrique, pleine de poésie, et qui trouve les mots justement pour exalter tous les sentiments qui traversent le livre, en particulier l'amour, je vous l'ai dit, j'ai insisté là-dessus, toutes les formes d'amour. Mais d'autres sentiments aussi, le temps qui passe, la noirceur de la vie, la pulsion de vie chez tous ces personnages, malgré les catastrophes qu'ils vivent. C'est un roman foisonnant, où il est aussi question de poésie. Il y a quantité de références à des écrivains islandais. Le frère de Sigvaldi lui-même est un poète. Et puis on écoute donc continuellement de la musique, je vous le disais tout à l'heure, avant d'écouter Nina Simone. Et ce qui est extraordinaire, c'est la place de la lecture dans ce livre. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, un livre entre les mains. Le fermier, la fermière, Asta, bien sûr, sa nourrice, Sigvaldi, etc., etc. et il y a des échanges continuels entre les personnages sur la littérature islandaise. Je voudrais finir par une très belle citation à la page 209. « Pour tromper le monde, je m'habille avec élégance chaque fois que je sors. J'allume mon sourire, je maquille un peu ma tristesse, puis je mets mes lunettes de soleil pour que personne ne remarque ton absence au fond de mes yeux. Pour que personne ne remarque ton absence au fond de mes yeux. » Elle a écrit ça à Joseph, bien sûr, quand elle était déjà une vieille dame. L'amour évalué par la douleur de l'absence. Un livre rare, donc, sur lequel que je vous conseille très vivement. Les Inrecuptibles ont écrit, quand il est paru, un livre épuré qui touche au sublime. Eh bien, merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois avec un autre livre. À bientôt.
Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.